Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, jusqu'à midi, c'est votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne et surtout, on tente de la rendre plus simple, plus douce. Alors ce matin, Julia, à quoi on va s'intéresser ?
Eh bien, un sujet de la plus haute importance, la chute de cheveux. Elle concerne les hommes comme les femmes et cela peut être très complexant pour certains. Alors pourquoi notre chevelure nous fait parfois défaut ? Peut-on freiner cette perte ou même favoriser la repousse? On va faire le point et puis on parlera aussi de l'alopécie. Là, il s'agit de pertes de cheveux assez sévères et parfois à des âges très précoces. On va tout vous expliquer avec nos invités. Aujourd'hui, nous recevrons le docteur Philippe Abimelech. Il est dermatologue, ainsi que Maëlle Dezard, écrivaine, autrice du livre À un cheveu, paru aux éditions Slalom.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance. Ces bons plans, ces activités en vogue dénichées par nos chroniqueurs. Tout d'abord, Soizic Belin mettra en avant ces lieux insolites, ces usines, ces maisons d'écrivains par exemple, que l'on transforme de plus en plus souvent en musées. Et puis il y aura aussi Sophie Braffman qui nous propose de faire du shopping ce matin, du shopping chez nous, dans notre propre garde-robe. Paraît-il qu'on ne porte que 30% des fringues dans nos placards. Elle nous donnera ses astuces pour augmenter ce pourcentage et donc pour être super lookée tout en faisant des économies.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Notre question du jour, la voici, comment vivre mieux la perte de cheveux? Clément Lanoux, un avis sur la question?
Évidemment, bonjour tout le monde.
Bonjour Clément.
J'ai pris cette question vraiment à bras le corps. Est-ce que la perte de cheveux, alors surtout pour les hommes, on sait que c'est un mythe de la virilité, ça peut faire peur justement. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que le stress accentue ça? Aujourd'hui, on va parler justement de cette perte de cheveux des chauves. Et j'aimerais ne pas dire les chauves, puisque j'ai classé, en tout cas pour les hommes, justement les chauves par catégorie. J'ai énormément d'amis chauves qui sont dégarnis, qui ne le savent pas. J'ai décidé aujourd'hui de faire un classement des chauves. Il y a 7 catégories. Donc cette émission vous est dédiée aujourd'hui. Voici la catégorie, le premier qu'on connaît bien, le chauve casquette. Celui qui a toujours sa casquette parce qu'il ne veut pas dire qu'il perd ses cheveux dans un musée, dans une église. Tu gardes ta casquette? Oui, bah, je me sens mieux avec. Voilà. Deuxième catégorie, et là, on en côtoie de près. Le chauve qui assume, le chauve sexy. On connaît évidemment Bruce Willis, Vin Diesel, Cadmerad. Il y en a énormément, c'est le chauve
comme
sexy.
Comme par hasard, vous avez pris celui-là. Hein.
J'aurais pu prendre votre mari aussi, mais on le connaissait moins. Attention, il y a celui qui remet la mèche en avant. Celui qui ne l'assume pas, on le connaît bien. Qui remet vers l'avant en disant non, je ne suis pas chauve du tout.
Ça, c'est un peu mon mari
c'est
aussi.
C'est le chauve tempête. On connaît Donald Trump, petit coup de vent et on se dit, ah, finalement, ce n'est pas la coupe qu'on espérait. Le chauve avec la couronne, c'est nos préférés en France. Gérard Jugnot, Alain Juppé, on les connaît ceux-là. Le chauve qui noircit le cuir chevelu, très peu connu celui-là, on arrive. Et un petit coup de bombe en disant, voilà, alors souvent s'il s'appuie sur un mur blanc,
ça
on le
voit.
Remarque. Et puis il y a également celui, alors ça c'est mon préféré aussi, je l'adore. Le chauve à qui ça n'irait pas d'avoir des cheveux parce qu'on l'a toujours connu chauve. Éric Judor d'Éric et Ramzy. S'il arrivait avec des cheveux demain, on serait choqués.
On n'aimerait pas du tout. Même.
Ça ne lui irait pas, c'est un style. Et il faut que ça aille justement. Et puis il y a aussi l'ancien chauve qui a fait des implants. Ça, faut avoir les moyens. Je me suis renseigné. Je me suis dit, est-ce que si demain, je perdais petit à petit mes cheveux, je ferais des implants ou pas? Donc je suis allé sur Internet, j'ai regardé les tarifs. Alors j'ai halluciné. On parle déjà.
Je vous prêterai des cheveux, on a à peu près la même couleur.
Ah bah, avec grand plaisir, je prendrai. On parle de greffon. Alors un greffon, ça correspond entre 1 et 3 cheveux. J'ai les tarifs pour ceux que ça intéresse. J'ai trouvé le meilleur prix que j'ai trouvé 1500 greffons, c'est-à-dire 3000 cheveux. Pour 5 300 €. J'ai fait mon petit calcul, ça fait 6 € le cheveu. Ce qui fait que je déprime maintenant quand je vais chez le coiffeur. Quand je vois les cheveux au sol, je me dis, je laisse 1000 balles à mon coiffeur à chaque fois. Et en partant, c'est lui qui me fait payer. Je vais crier au scandale.
Merci beaucoup Clément pour cette introduction. On va à présent se mettre au travail pour vous proposer, vous qui nous écoutez, un éclairage précis sur les problématiques et surtout les solutions contre la perte de cheveux. On va le faire avec vous Maëlle Dezard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes écrivaine, l'autrice du livre « À un cheveu » paru aux éditions Slalom. À côté de vous, il y a aussi le docteur Philippe Abimelech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à Paris, vous êtes expert des cheveux et des ongles. Alors docteur Abimelech, quand on parle de perte de cheveux, le classement de Clément Lanoux, on va le laisser de côté parce que c'était un peu
sondage que j'ai réalisé moi-même, effectivement, sur des études très approximatives.
Alors, nous, on pense immédiatement, en tout cas, à la calvitie. Mais des hommes, c'est vrai qu'on pense systématiquement à ça. Mais bien sûr, les femmes aussi sont concernées. Est-ce qu'on a des chiffres pour estimer, justement, la proportion des uns et des autres qui sont concernés?
Bien sûr. Tout le monde perd ses cheveux à un moment donné, au cours de l'année, par exemple, lors des saisons. Changement de saison, à l'automne, au printemps. Et les femmes en particulier, après une grossesse par exemple, à l'arrêt d'un médicament, l'arrêt d'une pilule, en cas de carence en fer, c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. C'est la chute de cheveux brutale qui touche tout le monde. Mm-hmm. Voilà. Et les gens, souvent, à cette occasion, s'inquiètent. Maintenant, il y a beaucoup d'autres variétés de chute de cheveux. L'alopécie endogénétique dont nous parlerons, la pelade et tout un tas d'autres affections.
On détaillera ça après. Ça peut être hormonal. Donc, vous citiez les femmes enceintes, par exemple, après un accouchement, c'est très courant. Les hormones, en quoi elles ont un lien avec ce qu'il y a sur ma tête ?
Alors, si vous voulez, l'effluvium télogène, qui est la grosse chute de cheveux qui survient lors des saisons ou au changement hormonal, est la plus fréquente. Et ces modifications hormonales provoquent un changement du cycle du cheveu qui passe de la phase de pousse à la phase de chute. Mais en l'occurrence, pendant toute la grossesse, les femmes ne perdent pas leurs cheveux. Mmh.
Oui, c'est juste après l'accouchement, effectivement.
C'est ça. Donc, en fait, elles perdent les cheveux qu'elles n'ont pas perdus lors de la grossesse.
Exactement. Alors, Maëlle, vous souffrez d'alopécie androgénétique. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit ? Parce que je crois que vous avez perdu vos cheveux très tôt, à l'âge de 14 ans, c'est bien ça ?
Oui, moi, ça s'est effectivement déclenché quand j'ai atteint la puberté. Et j'avais beaucoup de cheveux, j'avais des cheveux très bouclés, très épais. Et ça, ils ont commencé, en fait, par s'affiner. Et mes parents ont commencé à s'inquiéter effectivement quand on commençait à voir apparaître le crâne en fait en dessous des mèches, alors qu'avant j'avais une énorme masse de cheveux. Et donc on allait voir plusieurs médecins, on allait voir plusieurs dermatologues qui ont tous diagnostiqué la même chose, l'alopécie androgénétique.
Alors ça veut dire quoi ? Il y a génétique dedans, andro, ça veut dire quoi ?
Alors je ne veux pas dire de bêtises, heureusement qu'il y a le médecin à côté de moi, mais c'est un...
Dites comment vous l'expliquez, puis le médecin précisera.
On l'a expliqué avec un problème de balance entre les hormones féminines et masculines et avec un surplus d'hormones masculines.
D'accord. Docteur, est-ce que c'est ça à peu près la définition ? Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors c'est peut-être un petit peu différent dans mon esprit. Il s'agit plutôt d'une sensibilité anormale des bulbes capillaires aux hormones masculines. Parce que certaines femmes qui présentent l'alopécie androgénétique ont en effet un trouble hormonal qui peut se quantifier par une prise de sang avec des anomalies. Mais la plupart n'en ont aucune et ont simplement une susceptibilité excessive à un taux d'hormones mâles que toutes les femmes fabriquent.
En tout cas, ce dont souffre Maëlle, on est d'accord, c'est assez rare, j'imagine, à 14 ans, d'autant plus.
Si l'alopécie androgénétique en elle-même est extrêmement fréquente, chez l'homme en particulier, mais chez la femme aussi, où elle prend une forme différente, les formes sévères qui débutent à la puberté ou même avant, puisque moi j'ai vu des enfants à 8 ans, garçons et filles, c'est extrêmement rare, effectivement.
D'ailleurs, Maëlle, vous avez écrit un roman pour jeunes adultes avec une héroïne touchée par l'alopécie. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? C'est le livre vraiment dont vous auriez eu besoin quand vous étiez ado ?
Oui, je pense qu'effectivement, il m'aurait aidée quand j'étais adolescente, parce que c'est la période où on construit son image, on construit sa sexualité, on se projette dans beaucoup de choses, en fait.
Ça a été difficile pour vous de vivre ça, j'imagine,
Oui, ça a été difficile, d'autant que les traitements qu'on m'a donnés étaient assez lourds, et ils ont eu des conséquences quand même assez importantes sur, de nouveau, ma représentation féminine. On m'a mis sous cure hormonale, en fait, à 14 ans. Ça a eu des répercussions très fortes au niveau physique. J'ai pris énormément de poids. J'ai des poils qui ont poussé sur le ventre, sur d'autres zones du corps, sur les oreilles, sur le menton.
Très violent, effectivement.
Donc c'était particulièrement difficile à cet âge-là, en fait, d'accepter que déjà on perde ses cheveux, qu'on prenne 20 kilos en un an. Donc oui, effectivement, ce roman, pour moi, il m'aurait aidée, je pense, à cet âge-là. Maintenant, j'ai aussi voulu qu'il puisse aider les personnes qui souffrent d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on reste assez on rentre pas dans le médical dans ce moment-là.
Merci à vous. Vous restez avec nous ici dans Bienfait pour vous. Aucun sujet n'est tabou. On fait le point ce matin sur la perte de cheveux en général, mais aussi dans des cas plus sévères, justement. À partir de quand doit-on s'inquiéter et peut-être même consulter ? Car la chute de cheveux reflète parfois un mauvais état de santé. On en parlera. Si vous souhaitez en savoir plus, en tout cas, une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Bienfait pour vous. Julia Vignali
Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'interroge autour de cette question, comment vivre mieux la perte de cheveux? On en parle notamment avec Maëlle Desarts, écrivaine, l'autrice du livre « À un cheveu » paru aux éditions Slalom, ainsi que le docteur Philippe Abimelech, dermatologue à Paris, expert des cheveux et des ongles. Docteur, on sait tous, donc vous l'avez expliqué tout à l'heure, qu'on perd tous nos cheveux, c'est dans la nature, c'est comme ça, c'est un cycle, on en perd tous les jours. Mais à partir de quand il faut s'inquiéter? Alors justement, à partir de quand on considère que c'est en proportion peut-être un peu anormale?
Alors, si vous voulez, il y a deux aspects dans la perte de cheveux. Il y a les cheveux qu'on va retrouver dans la brosse.
Moi, c'est une poignée tous les jours. Hein. Ah, carrément. Une grosse poignée, mais bon, j'en ai toujours sur la tête. Donc
alors, si vous voulez, en règle générale, on considère qu'on perd entre 30 et 50 cheveux par jour.
C'est plus, hein, je pense.
Un jour normal. Et lors des changements de saison, par exemple, c'est souvent, ça peut être le double.
Ça vous dit quelque chose, vous, Julia? 30, 60 cheveux, non, c'est difficile à évaluer comme ça.
C'est quoi, c'est sur la brosse?
C'est
sur la brosse quand on les prend à la main, là, j'aime bien, moi,
en faire une
boule. Je
crois que c'est très difficile à évaluer. Une
donc c'est plutôt en regardant son crâne, finalement, est-ce que le crâne commence à apparaître? Peut-être c'est ça les signes,
c'est
j'imagine.
C'est exactement là où je voulais en venir.
C'est là qu'on s'inquiète.
La chute anormale, c'est finalement quand, au fil du temps, on se rend compte que la masse chevelu est moindre et qu'on voit des cheveux un peu clairsemés, particulièrement à l'avant du crâne. C'est là où ça se manifeste au début.
C'est comme ça, oui, ouais. Que ça vous est arrivé, vous, Maëlle?
Alors moi, c'était plutôt effectivement sur le haut du crâne. En fait, ça s'est dégarni par en haut, un peu comme un moine copiste. Mais oui, ça... et puis il y a un changement de texture aussi, moi, que j'ai ressenti dans les cheveux. Il devenait beaucoup plus fin, beaucoup plus cassant, en fait, aux extrémités.
En tout cas, j'imagine que... On a compris que le changement de saison pouvait créer la perte des cheveux, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait d'autres facteurs? Je pense à l'alimentation, au stress. On entend souvent que peut-être un choc émotionnel peut créer ce genre de choses.
Alors oui, effectivement, c'est dans l'air, c'est une réflexion que chacun se fait. Et c'est essentiellement vrai pour la pelade, qui est une variété de cheveux d'origine un peu génétique, de chute de cheveux, pardon, d'origine génétique, où la chute se fait par plaque, on a des trous dans les cheveux.
Et c'est donc lisse, le stress, le crâne est lisse. Hein,
ouais, le stress,
eh bien,
peut
le stress
ça.
Déclenche effectivement une pelade.
Ça existe.
Maintenant, dans l'alopécie androgénétique classique, non. Mais les coiffures...
Les casquettes, par exemple, les casques de moto, tout ça, ça peut créer?
Alors, pas la casquette elle-même, mais les coiffures...
Dans ceux classiques qui ont des chignons très serrés à l'arrière.
Les chignons
tout
très,
ça, ouais.
Très serrés des danseuses, effectivement. Les patientes qui ont les cheveux crépus utilisent aussi ce type de coiffure avec des chignons très tendus. Et ça provoque effectivement une chute aux zones de tension, donc à l'avant du cuir chevelu et à l'arrière. Hein, ça, c'est absolument classique. Mais aussi, toutes les coiffures qu'utilisent les personnes qui ont des cheveux crépus provoquent des chutes de cheveux, c'est-à-dire les tresses plaquées africaines, les tresses vanille très tendues, les extensions capillaires qui sont très en vogue dans ces populations. Eh bien, si vous voulez, elles tirent sur le cuir chevelu, elles arrachent les cheveux.
Ça abîme,
et ça fait des trous, en particulier au centre du crâne, créant une zone sans aucun cheveu. Mais en fait, tous les frottements et toutes les tractions provoquent des chutes de cheveux. Donc les coiffures, comme ont les sœurs bénédictines, il y a souvent en dessous un autre bonnet très serré.
Et c'est ça qui crée la perte
qui
des cheveux.
Qui peut, par le frottement, induire une chute de cheveux.
Maëlle, votre alopécie, elle a été diagnostiquée, vous l'avez dit, à l'adolescence, vous aviez 14 ans. Comment ça s'est passé au moment du diagnostic? Est-ce qu'on vous a expliqué quelle était la cause? Est-ce qu'il y avait des antécédents dans votre famille, peut-être?
Alors oui, mon père, effectivement, désolé papa, a perdu ses cheveux aussi très jeune. Les femmes de ma famille sont aussi assez dégarnies. Ma grand-mère a perdu ses cheveux aussi, mais quand elle était adulte, donc ça a été
un âge plus acceptable,
exactement, plus attendu aussi. Oui. On voit souvent des femmes un peu âgées dans la rue qui manquent des cheveux. La manière dont ça m'a été annoncé, en fait, je m'en souviens bien, en même temps assez peu, parce que j'avais 14 ans. Je me souviens du médecin qui me disait, vous serez chauve à un moment de votre vie.
On a utilisé ce mot-là
consultation
à une jeune fille de
14
ans.
C'était assez particulier. Il manquait beaucoup d'empathie, je pense au médecin. Heureusement, ma mère est infirmière et donc elle m'a beaucoup, beaucoup expliqué.
Redébriefé derrière.
C'est ça. Ne t'inquiète pas.
On va trouver des solutions.
Exactement.
Et docteur, alors justement, quand on diagnostique une alopécie, qu'est-ce qui peut se passer? On peut aider, j'imagine, quand même le patient. On donne des médicaments. C'est quoi alors,
si vous voulez, déjà, comme elle l'a dit, les médecins parfois manquent d'empathie. Et je dois dire qu'avec l'expérience, on s'améliore quand même de ce point de vue-là. Et par exemple, le terme d'alopécie androgénétique
est moche,
toujours
déjà,
extrêmement mal vécu. Mmh. Parce que le terme alopécie, ça fait peur, ça veut dire chauve. Et donc, je crois que ça devrait être remplacé par un terme de miniaturisation génétique. Parce que c'est ce qui arrive. Mmh. C'est que ce n'est pas une chute de cheveux, l'alopécie androgénétique. C'est des cheveux qui deviennent de plus en plus fins et qui, à force d'être fins, disparaissent. Mmh.
C'est pas la chute, c'est vrai, c'est pas du tout la même chose.
Il y a des soins locaux à faire, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous donnez vous?
Alors il y a des soins relatifs à toutes les chutes de cheveux, sauf l'effluvium télogène dont nous avons parlé après l'accouchement.
Oui.
Voilà. Mais par exemple pour l'alopécie androgénétique, il y a des traitements aussi bien chez la femme que chez l'homme. Alors, chez la femme et chez l'homme, le minoxidil, c'est la base du traitement.
C'est un médicament à prendre par la bouche, hein, ce sont des comprimés.
Un médicament que l'on prend localement. Mmh. Ça, c'est la base du traitement de l'alopécie androgénétique. Chez la femme, lorsqu'il y a une anomalie hormonale patente, un traitement hormonal est utile.
Maëlle, perdre ses cheveux, c'est difficile évidemment pour beaucoup de gens, mais encore plus quand on est une jeune adolescente, on l'imagine bien. Comment vous avez affronté à cette époque-là le regard des autres, avec le même humour que votre héroïne Emma dans votre roman À un cheveu ou pas?
Alors peut-être avec un peu moins, avec le recul j'avais beaucoup moins d'humour sur moi-même en fait finalement. J'ai accepté finalement ce regard des gens assez sur le tard, donc c'est vers la trentaine seulement que j'ai accepté que j'avais une chute des cheveux qui ne s'arrêterait pas et puis que j'ai pris les décisions qui font qu'aujourd'hui je me balade sans perruque, avec le crâne rasé et puis ça va très bien. Mais quand j'étais adolescente j'étais très agressive. Quand les gens commençaient à me poser des questions, j'avais tendance à les rabrouer très rapidement.
Mais ils n'étaient pas toujours très sympas, je pense, non, les gens,
ils n'étaient pas. Mais peut-être que c'était moi aussi qui partais du principe que les gens allaient venir pour critiquer.
Donc vous piquiez avant qu'on vous pique.
Exactement.
Hein,
parce que votre héroïne est victime de harcèlement scolaire. Est-ce que ça a été votre cas, vous?
Alors pas pour le coup pour les cheveux. Par contre, c'est vrai que la prise de poids, en fait, qui a été très rapide suite à la prise de l'androcure, a généré des remarques assez difficiles à encaisser. Et donc, c'est pas du harcèlement au point que ce qu'a subi mon héroïne. Je vais pas vendre quelque chose que j'ai pas vécu.
Mais des souffrances psychologiques, vous en avez subi.
Voilà, exactement. Hein. Puis ça met du temps, en fait.
À s'en remettre. Justement, docteur Abimelech, quand des patients, eux, viennent vous voir, j'imagine qu'il faut être à la fois psychologue et dermatologue. Hein. C'est pas juste on va traiter avec tel médicament pour vos cheveux. C'est une vraie souffrance, hein, j'imagine, pour certaines de perdre leurs cheveux. Certaines même peut-être vont aller jusqu'à la dépression, j'imagine.
Vous avez absolument raison. C'est une réelle souffrance, une réelle détresse que le médecin perçoit pas toujours à sa juste importance. En particulier au début de son exercice, où il est habitué à traiter des maladies graves, et où à partir de ce moment-là, la chute de cheveux paraît assez annexe à certains. À tort, parce que réellement, ça peut provoquer, comme l'a dit justement Maëlle, une réelle détresse.
On va continuer cette conversation tous ensemble ce matin sur la perte de cheveux, sur l'alopécie, qu'elle touche les hommes ou les femmes. Nous, en tout cas, on parle de tout le monde aujourd'hui. Et on va aussi vous proposer pas mal de solutions, si bien sûr c'est un complexe pour vous. Ne bougez pas, vous êtes entre de bonnes mains sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Comment mieux vivre la perte de cheveux? On fait le tour de cette question ce matin avec nos deux invités. Je vous présente de nouveau Maëlle Desart, écrivaine, autrice du livre À un cheveu, paru aux éditions Slalom, ainsi que le docteur Philippe Abimelech, dermatologue à Paris, expert des cheveux et des ongles. Alors, on va parler d'un fait qui s'est passé récemment, un fait un peu people.
Et qui a mis ce sujet-là sur le devant de la,
exactement,
la scène.
Exactement. Jada Pinkett Smith, vous savez, la femme de Will Smith. Je crois qu'il y a eu une blague au sujet de son alopécie qui a causé la fameuse gifle de son époux Will Smith aux Oscars. Est-ce que c'est un sujet que vous trouvez encore tabou, Maëlle?
Oui, bien sûr. Je pense que l'alopécie, enfin la perte de cheveux féminine en tout cas, est bien sûr encore tabou. Moi-même, pour prendre mon exemple personnel, hein, je l'ai caché pendant longtemps. D'abord, je plaquais, je faisais un petit peu ce que disait Clément, je plaquais une mèche pour cacher un petit peu les trous, je mettais des épingles à cheveux pour m'assurer qu'on ne voyait pas le crâne. Ensuite, j'ai décidé de porter un foulard. Après quoi, j'ai porté une perruque. Il m'a fallu beaucoup de temps pour
Et maintenant, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent « mais qu'est-ce que t'as ? Voilà, pourquoi t'as pas de cheveux ?»
Je l'explique. La première question, en fait, je vois déjà la détresse dans le regard des gens qui pensent forcément que c'est un cancer. Donc mon premier réflexe, c'est de leur dire « c'est pas grave, c'est une maladie, mais c'est pas mortel, tout va bien ». Et puis après, je leur explique un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'il y a encore des regards qui sont un petit peu...
Là, vous avez le crâne rasé pour nos auditeurs qui ne peuvent pas vous voir.
La radio, c'est difficile.
Du coup, on dirait presque d'ailleurs que vous avez pas mal de cheveux, finalement.
Moi, j'ai de la chance parce que j'ai une alopécie qui est diffuse et puis qui n'a pas... Il n'y a pas de trous, il n'y a pas de pelade, comme disait le médecin.
Donc et vous avez des astuces, vous nous disiez ça en préparant l'émission. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous rasez plus court que d'autres pour faire
exactement.
Un effet trompe-l'œil, un peu.
Exactement.
C'est ça,
je laisse un petit peu plus haut sur le dessus et puis je rase un petit peu plus sur le devant pour que ça fasse un petit peu la même couleur sur le crâne. Voilà.
Il y a des patientes à qui vous conseillez encore, docteur, il n'y a pas de solution, j'en sais rien, ou est-ce qu'il y a toujours une solution, et porter une perruque, et puis voilà, parce que elle est passée par la perruque, est-ce que c'est forcément un passage obligé? Ça vous arrive, vous, d'en conseiller?
Alors, les compléments capillaires sont effectivement très utiles, en particulier pour les patientes qui sont victimes d'une pelade sévère et qui n'ont plus de cheveux. Maintenant, c'est vraiment une solution rare au cours de l'alopécie androgénétique, objectivement. Maintenant, c'est une solution effectivement très utile dans certains cas.
Alors Maëlle, dans votre roman À un cheveu, Emma, votre héroïne, a une relation d'amour-haine avec sa perruque qu'elle appelle la précieuse. C'était votre cas, vous ?
Oui, tout à fait. Dès que je la mettais le matin, la perruque, j'avais comme un poids qui pesait sur les épaules. Toute la journée, j'étais très stressée à l'idée que quelqu'un la repère. Donc je plaquais tout le temps les tempes, je m'assurais qu'elle était tout le temps bien mise. On prend des petites astuces pour s'assurer qu'elle est bien placée sur le visage. C'est lourd aussi, une perruque, finalement, c'est
chaud.
On
n'imagine pas, hein, c'est vrai.
On n'imagine pas, mais ça gratte, c'est lourd. On doit porter un bonnet en dessous pour éviter de la salir, parce que c'est très fragile. C'est tout un travail en fait qu'on a autour et toujours une anxiété permanente en fait à l'idée.
Bon, s'il y en a qui les supportent bien, tant mieux, mais en tout cas c'est pas toujours
moi,
facile.
Moi je l'ai pas,
c'est
pas
apprécié.
D'autant plus que si je partais là-dedans, ça aurait sûrement été à vie. C'était pas une solution pour camoufler quelque chose qui se passait à un instant T. Donc il y a vraiment aussi toute cette projection sur le futur vis-à-vis de cette perruque qui était complexe.
Docteur Abimelech, on a plusieurs questions d'auditeurs que je vais compiler. En gros, ils nous demandent tous si les shampoings, les soins qu'on trouve en parapharmacie, par exemple, contre les chutes de cheveux, il y en a partout, est-ce qu'ils peuvent vraiment donner des résultats ou est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin, ces soins-là?
Alors, clairement, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pour ce qui est de faire pousser les cheveux, maintenant, un shampoing, par définition, ça agit en surface, c'est un cosmétique, et donc ça a un rôle important, éventuellement au cours des chutes de cheveux, dans la mesure où l'alopécie androgénétique, comme on l'a vu, est une affection où les cheveux deviennent plus fins. Et grâce aux cosmétiques qui peuvent être les shampoings, mais aussi les poudres que l'on vend pour cacher un peu les chutes de cheveux, sont des produits qui permettent d'augmenter le volume du cheveu. Donc c'est très utile, effectivement, bien que ça n'augmente pas la pousse du cheveu en soi.
Bon, il y a aussi une autre solution, c'est pourquoi pas trouver le ou la bonne coiffeuse. On a justement au téléphone Claire Bézombe du salon Tempo à Villeneuve-les-Avignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait une formation pour vous occuper, je crois, des cheveux de femmes touchées par l'alopécie. Quelles sont c'est quoi les techniques, alors justement, pour mettre en valeur ces femmes qui perdent ou ont perdu leurs cheveux?
Après, disons qu'on ne va pas faire des miracles par rapport à ça, mais on va les aider à se sentir mieux avec des prothèses capillaires, avec des turbans, avec des franges, quelque chose qui peut les aider à évoluer et à se sentir mieux. Après, aujourd'hui, ils ont des nouvelles techniques qui s'appellent la dermofusion. Et ça consiste à coller sur le cuir chevelu, ça dure un mois, une membrane en fait qui est sur le cuir chevelu et qui permet de garder ses cheveux pendant un mois et ça se renouvelle une fois par mois.
Et c'est quoi le but? C'est de redonner confiance à ces femmes?
Et ça marche?
Alors oui, le but c'est qu'elles le vivent le mieux possible et qu'elles arrivent encore à s'entretenir et à se sentir belles et qu'elles ne souffrent pas du regard des autres. À partir du moment où elles ne souffrent pas de leur propre regard, elles se sentiront mieux déjà quand elles marchent dans la rue ou ce genre de choses.
Claire, est-ce que vous avez une technique peut-être qui intéressera, je crois, notre invité pour les femmes qui ont finalement décidé de se raser le crâne? C'est le cas parfois et ça vous va très bien, Maëlle, d'ailleurs. Je crois par contre qu'il y a peut-être besoin d'astuces pour ne pas se louper, pour ne pas s'irriter le crâne surtout. Comment on en prend soin? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil?
Alors éventuellement, on fait aujourd'hui des enveloppes d'argile qui les aident en fait à détoxifier le cuir chevelu. Et il y a différentes argiles, des rouges, des bleus, des blanches, et qui va permettre en fait d'oxygéner le cuir chevelu pour justement passer cette barrière et supporter en fait au moment où ça gratte ou où ça s'irrite, tout ça. Après aujourd'hui, il y a comme des produits entre guillemets après rasage qui aident en fait à passer ce cap.
C'est ce que vous faites peut-être, Maëlle?
Oui, tout à fait. Voilà. Ça m'a pris du temps à trouver comment faire, parce que les premières fois où je me rasais le crâne, effectivement, la peau devenait toute rouge.
Un crâne rasé, ça s'entretient.
Mais voilà. En fait, mais oui, ça s'entretient beaucoup.
C'est ça. Eh bien, merci Claire d'avoir été avec nous et bonne continuation et bravo pour ce que vous faites. Je reviens vers vous, docteur Abimelech. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Parce que tout à l'heure, on a entendu parler des greffes capillaires. Est-ce que c'est uniquement réservé aux hommes, ça?
Alors, les greffes capillaires peuvent être réalisées chez les hommes et chez les femmes, mais certains pensent qu'ils sont destinés à redonner le volume capillaire initial. Ce n'est pas le cas. La greffe de cheveux est essentiellement destinée à combler des vides et des trous. C'est-à-dire que là où la densité capillaire est réellement faible ou bien là lorsqu'il n'y a plus de cheveux. Mais pour faire une greffe dans de bonnes conditions, il faut que la zone qui va donner les cheveux, qui se trouve à l'arrière du crâne, soit de bonne qualité. Et cette zone qu'on appelle zone donneuse, techniquement, donneuse de cheveux, est bien souvent de mauvaise qualité chez les femmes. À savoir que la densité est faible, les cheveux sont fins aussi à l'arrière du crâne, bien que leur diamètre soit plus important qu'à l'avant. Et souvent, ça ne permet pas de faire une bonne greffe.
Maëlle, un petit mot de la fin. Vous avez écrit ce livre. J'imagine que c'est un petit côté un peu libérateur. Selon vous, il ne faudrait pas, donc, dans votre cas, ça a été le cas, mais il ne faut pas s'obliger à porter une perruque, des chapeaux ou même des implants. Pourquoi vous voulez passer ce message? Après tout, si on a envie, on le fait aussi. Mais
oui, tout à fait.
Quel est le message que vous voulez faire passer?
Le message que je voulais faire passer, c'est important de prendre le temps en fait, de passer par toutes ces étapes de deuil, finalement, hein, un petit peu, quand on a cette maladie qui se déclenche, d'accepter ce qu'on va perdre et puis de décider comment on va réagir. C'est important, si on décide de porter une perruque, bah, qu'on la porte. Si on décide de porter un foulard, bah, qu'on le porte. Mais je pense que c'est important que ce soit une décision qui vienne de l'intérieur, finalement, plutôt qu'une décision qui soit provoquée par les regards et par la crainte de ce qui pourrait nous arriver si les gens découvrent, en fait.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions pour ce dossier complet sur la perte des cheveux. Voilà, Julia, quelle est la suite de notre programme?
Eh bien, on va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord Soizic Belin. Figurez-vous qu'elle va nous faire découvrir quelques lieux insolites transformés en musées, des lieux à découvrir de toute urgence. Et puis avec Sophie Braffman, on va faire du shopping dans notre propre garde-robe. Des astuces pour enfin utiliser les 70% de vêtements qu'on a dans nos placards et qui végètent. On va se relooker tout en faisant des économies. C'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, l'émission qui fait du bien tous les jours jusqu'à midi. À présent, on passe à notre tour de table des tendances. Et il y a déjà Sophie Braffman qui est avec nous en studio. Bonjour Sophie.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez un shopping vraiment accessible à tous les porte-monnaies, hein, c'est bien ça?
Ah ben c'est totalement gratuit. En plus, vous allez être contente parce que vous allez faire du vide et du tri. Et puis j'aime bien cette expression de tiens, faire du shopping dans son armoire. Parce qu'après tout, on n'a pas trop de choses à la maison. Ouais,
complètement. Je mets jamais tout le monde.
La moitié, moi qui reste
même
qui
pas,
dort.
Et la moitié, vous êtes gentil, c'est un tiers en général.
Ça m'étonne pas.
Je vais vous en dire plus après.
On a hâte d'avoir vos conseils. Ça sera dans un instant, Sophie. Pour l'instant, c'est Soizic Belin qui va démarrer. Bonjour Soizic. Grâce à vous, on va découvrir ce matin des musées dans des lieux peu communs. C'est ça?
C'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces bâtiments industriels, ces bâtiments commerciaux, historiques, ces vestiges d'un passé plus ou moins lointain, d'un passé industriel reconverti en lieu de culture, de loisirs, un lieu pour la plupart un peu branchouille. Vous savez, on pourrait inclure ces lieux dans la case assez tendance que l'on nomme aujourd'hui tourisme industriel. C'est un peu dans l'air du temps, c'est in, c'est un peu écolo aussi parce que c'est du tourisme conscient puisqu'il s'agit de visiter un lieu préexistant, un lieu qui était là avant sa métamorphose et qui avait une fonction utilitaire.
Donc en fait, ce sont des bâtiments qui ont été détournés, c'est bien ça, de leur fonction initiale et qui accueillent aujourd'hui des visiteurs, mais dans quel but?
Alors, dans un but pédagogique, par exemple, vous pouvez aller visiter les centrales EDF, la centrale hydroélectrique de Saint-Étienne.
Tiens, si on y allait, Julia, ça serait une bonne sortie.
Ah ouais, c'est
ça n'a pas l'air sexy comme ça, mais en tout cas, ça vous permet une incursion dans les backstage, hein, d'où vient votre énergie. Et soit ce sont des lieux qui ne gardent que de leur histoire, en fait, qu'une partie de l'architecture, hein, la façade, par exemple, et qui accueillent aujourd'hui de l'art.
Mmh. Voilà. C'est le cas du musée d'Orsay.
C'est le cas du musée d'Orsay, que tout le monde connaît, au moins de nom, en tout cas, ce sublime musée qui conserve des œuvres de l'art occidental de la fin du 19e, début 20e. 20e. Eh bien, ce musée, qui longe la Seine dans le 7e arrondissement de Paris, a été inauguré en 1986 par Valéry Giscard d'Estaing. Il était jusque-là une gare, plus précisément le terminus de la compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans.
Et bien justement, il y a aussi Grande Contrôle qui appartenait à la SNCF, hein, il me semble.
C'est ça, c'était une ancienne halle de tri postale et aujourd'hui c'est un espace qui accueille différentes manifestations artistiques, des concerts, des expos, des marchés thématiques.
Très chouette.
Il y a une radio, des associations, c'est un lieu de vie, hein, ça fourmille. Et des lieux comme ça, qu'on réutilise, que l'on transforme, ils sont nombreux. Alors je ne sais pas si vous connaissez Nantes.
Pas trop, non. Pas trop.
Un petit peu. Il y a effectivement un lieu comme ça, c'est une ancienne usine Lu. Non,
c'est
la usine de biscuits. Voilà.
C'est l'usine Lu, en fait, les petits gâteaux. L'usine a fermé, elle n'était plus aux normes. Hein. Bon, l'usine Lu existe encore,
ah
mais
oui,
elle n'est plus
y a toujours les gâteaux sans
voilà. Et pendant quelques années, pendant cette fermeture, elle est restée à l'abandon jusqu'à ce que quelques artistes s'en emparent de manière un peu punk, hein, illégale. Mais soit, ça fonctionnait, le public était au rendez-vous. Et fort du succès de cette démarche, l'ancienne usine Lu est devenue le lieu unique. On garde les initiales Lu. On écoute Fleur Richard qui y travaille.
Préserver le patrimoine industriel en réhabilitant, on va dire, l'usine Lu, c'était une volonté politique, une volonté de Jean-Marc Ayrault, à l'époque maire de Nantes, qui a vu dans cette usine et dans ces bâtiments quelque chose du passé de la ville de Nantes qu'il était essentiel de transmettre et de conserver. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes le lieu unique installé dans un bâtiment qui a marqué l'histoire industrielle de la ville de Nantes et plus largement l'histoire industrielle française, puisque l'usine Lu, les biscuits Lu, c'est vraiment quelque chose qui est connu dans le monde entier.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce lieu unique, Soizic ?
Eh bien, tout un tas de manifestations artistiques. Il y a une scène nationale avec de la danse, de la musique, mais il y a aussi des conférences. Actuellement, jusqu'au 9 juin, vous avez le cirque Trottola pour vos petits-enfants. Hein. Et je vous invite aussi à jeter un œil à toute la programmation, mais vous avez aussi mystère, hein, une crèche qui est élue, voilà, domicile dans ces murs, et autant vous dire que les enfants profitent en fait de toute l'attraction, de tout ce qui se passe, c'est hyper enrichissant.
Et il me semble que vous vouliez finir par un de vos lieux coup de cœur.
Tout à fait, j'ai visité il y a une quinzaine de jours la Bourse de Commerce, investie par la collection Pinault. C'est à mon sens un merveilleux exemple de transformation. C'était une halle au blé au Moyen-Âge, c'est devenu une Bourse de Commerce, présentée donc à l'exposition universelle de 1900, en même temps que la fameuse Tour Eiffel, et c'est maintenant un musée qui a décidé de préserver toutes les strates de son patrimoine pour faire vibrer ensemble les périodes. On écoute Thibaut Marca, architecte de l'agence NEM, qui a travaillé sur le projet aux côtés d'autres architectes, Tadao Ando, Lucie Ninesi et Pierre-Antoine Gattier.
La Bourse de Commerce nous est parvenue dans son dernier état de transformation, c'est-à-dire telle qu'elle a été inaugurée en 1889. Mais ce monument recèle une histoire bien plus riche puisqu'il comporte les vestiges des bâtiments antérieurs, en grande partie démolis, le palais de Catherine de Médicis et la halle au blé, dont subsistent la colonne Médicis, les escaliers à double révolution, la couverture en fer de fonte. L'idée de l'intervention contemporaine, matérialisée par ce grand cylindre en béton, a été d'ajouter une strate, sans rien enlever, contrairement aux interventions passées, pour dialoguer avec le déjà-là. On invoque presque les usages passés, la criée, le panier de la bourse. On a envie que les visiteurs entendent les sons du passé, pour mettre en perspective le nouvel usage, montrer la collection, qu'elle résonne avec le lieu.
Alors pourquoi construire quand il y a tellement de lieux qui n'attendent qu'un bon coup de rafraîchissement pour vous accueillir à nouveau ? On préférera alors reconstruire, rénover, et vous l'aurez compris, on garde le passé pour investir le présent.
Eh bien merci beaucoup Soizic pour cette chronique. On va passer maintenant au conseil mode, voire même relooking express. C'est pas cher, c'est avec vous Sophie Braffman.
Alors, c'est même gratuit aujourd'hui.
C'est génial, bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà je vais vous rappeler quelques chiffres qui vont vous donner envie de regarder plus intensément votre armoire. Depuis l'an 2000, les ventes de vêtements ont augmenté deux fois plus vite que les revenus. Hein, donc on se dit que peut-être on va arrêter d'en acheter, enfin en tout cas en acheter toujours plus. Chaque jour, 2,6 milliards de dollars sont dépensés pour acheter des vêtements. Alors bien sûr, il y a des reines du shopping, hein, très connu d'entre nous, qui en totalise un certain nombre, mais c'est quand même beaucoup. Et sachez, mesdames, parce que je pense que c'est surtout mesdames, que 30% c'est la proportion totale de vêtements qu'on l'emporte sur la totalité achetée. Bon, ben, je me dis qu'en 2020, 150 milliards de vêtements ont été produits dans le monde. Ça vaut peut-être le coup d'en prendre dans notre armoire directement.
C'est clair. Bon, si je comprends bien, on va faire avec ce que nous avons encore. Faut-il avoir une armoire bien rangée? Parce que moi, il y a des trucs, je pense, qui sont au fond, même voire tombés entre les tiroirs.
Oui, je sais, faut que vous veniez chez moi, Julia, pour ranger un petit peu.
Oui, Julia a l'air un peu plus méthodique. Hein. bien, je crois. Mais Mélanie, vous avez le même problème que moi. Et effectivement, des placards qui débordent, c'est aussi une raison pour laquelle on ne porte que ce qui est visible.
Ce qui est devant, quoi.
Voilà, exactement. Ce qui est au fond, on ne sait même pas que ça existe encore. Et je sais vraiment de quoi je parle, puisque j'ai beaucoup de choses et j'ai du mal à appliquer mes propres conseils. Alors, ça commence donc par du tri et du rangement. Impossible de trouver ce qui n'est pas rangé. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces pour que ça soit beaucoup plus évident à regarder et que les choses ressortent davantage dans votre armoire. Et vous allez, n'est-ce pas, Marie Kondo, je regarde Julien, vous êtes un peu. Et vous allez remercier les vêtements dont vous allez vous débarrasser.
Mais moi, je le fais toujours.
Vous les remerciez ?
Arigato.
Voilà, arigato. Mais bien sûr, quel c'est Marie Kondo.
Julien, sérieusement, vous faites ça ?
Non, mais parfois, si je parle à mes pulls.
Ah,
en disant,
merci d'avoir fait une émission sur les gens qui parlent à leurs pulls.
Mais si, on est nombreux, je vous jure.
Si vous aussi qui nous écoutez, vous parlez à vos pulls, puisque visiblement on est nombreuses, n'hésitez pas à écrire à Julia qui se fera un plaisir de vous répondre.
Sinon, il y a le lieu d'écoute,
C'est le soir.
Non, mais je voudrais quand même dire, mais quel bonheur de se débarrasser des affaires qu'on ne met plus.
Non, mais c'est un bonheur
absolu. C'est un bonheur, vous vous sentez plus légère, Mélanie, je vous jure.
Oui, puis vous les donnez à quelqu'un, vous faites du bien à quelqu'un d'autre. Donc en plus, c'est une bonne action.
Je donne. Juste, je ne parle pas à mes pulls.
Voilà. Donc vous n'allez pas parler, mais vous allez peut-être plier, Mélanie, à défaut de leur parler. Alors, c'est très simple. Déjà, on commence par faire des piles par catégorie. Une pile de jeans, vous en avez forcément. Une pile de t-shirts blancs, des débardeurs, du plus clair au plus foncé. Je sais, pour vous, Julia, ça tombe sous le sens, mais pas pour tout le monde. Idem pour la penderie, Mélanie. Et là, je m'adresse à vous. Sur la gauche, vous démarrez par les chemises blanches et vous remontez progressivement avec la couleur des pièces les plus légères aux pièces les plus colorées et les plus fortes. Ah, bah, j'en vois une qui acquiesce et qui connaît très bien. Soizic, vous faites ça aussi ou pas ?
Ah, pas du tout.
Non. Mais les rayures, je
qu'elle est plus que moi.
Voilà,
les rayures avec les rayures, comme le dit Julia, les carreaux avec les carreaux, on classe par imprimé. Si vous avez des accessoires, par exemple, dans votre armoire, par exemple des foulards, eh bien, bon, c'est rare qu'on prépare sa tenue la veille, on n'a pas forcément le temps. Si vous avez des foulards dans votre penderie sur un cintre, en fonction des couleurs, vous allez tout de suite voir si le foulard match avec le top que vous portez. Par exemple, un foulard rouge ira très bien avec une chemise kaki. Mais ça, si le foulard est en boule au fin fond de l'armoire, vous ne pouvez pas le savoir. Oui. Et voilà, et c'est le drame. Et le matin, vous n'avez pas le bon foulard.
Du coup, je mets pas de foulard en fait, ils en font.
Mais là où Sophie a raison, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle des
assemblages.
Oui.
Julia, vous triez vos lunettes de soleil aussi ou pas ?
Évidemment. Ah, j'ai des rangements à lunettes de soleil.
Ah, et en plus, alors bon, là on est vraiment chez une grande maniaque, donc là elle a les boîtes. Par contre, vous pouvez toujours les mettre dans une petite panière, comme pour les ceintures. Ça, c'est un très bon conseil. Vous les roulez dans la panière et comme ça, vous voyez la couleur de la ceinture qui apparaît et vous savez exactement avec quelle pièce vous allez la sortir.
Moi, je fais ça avec les culottes uniquement. Ah, elles sont bien rangées.
Et c'est
dans
pas
la panière.
Mal, déjà. Oui. Mais par exemple, Mélanie, les culottes, on les montre moins. La ceinture, plus.
Oui. Moi, pour les culottes, j'ai des rangements spécifiques.
Ah, vous savez
chez elles sont rangées par couleur.
Ah,
je les ai vues.
Ouais. Je suis sûre que vous avez la culotte assortie à la tenue.
Ah, bah, parce que si j'ai un accident et que on est obligé de me mettre toute nue, je veux être coordonnée.
Voilà. Vous savez que vous serez coordonnée au bloc et donc vous êtes contente. Donc vous avez compris pour la partie rangement.
Tout à fait. Et au besoin, donc on peut aussi transformer certaines pièces qu'on ne met plus ou qui ne nous vont plus.
Alors c'est là où je me transforme un peu en magazine mode des travaux. Mais oui, vous allez voir, vous allez pouvoir transformer vos vêtements. Alors je pense notamment aux jeans, on a toutes des jeans un peu usés, jeans troués, j'en porte un moi-même aujourd'hui qui ne va pas faire long feu. Oui,
moi j'ai un problème, j'ai un jean en 34 que je garde en me disant un jour je le remettrai,
mais pas sûr que vous le remettiez. Non, alors, celui-là, vous n'allez pas pouvoir le transformer en short parce que vraisemblablement vous ne rentrez plus dedans. Par contre, et c'est là où c'est utile, vous allez pouvoir découper ce jean et garder des bribes de votre jean. Imaginez, j'ai parlé la semaine dernière à Roland Garros du chapeau, un accessoire mode ultime. Vous aimez un Borsalino, un Panama, vous avez un chapeau de paille. Eh bien, si vous découpez dans votre jean de quoi faire une petite bande que vous allez mettre comme sur un chapeau.
C'est joli.
Voilà.
Quelle
et jean et paille, ça match très bien ensemble.
Mais si on est nul en couture.
Ah, comme vous, comme moi, voilà,
comme tout le monde.
On est vraiment nuls.
Non, une bande
pas
de
tout
jeans,
le monde.
Ça doit se faire.
Non,
quand
ça, on peut le faire. Alors, vous faites comme moi, un truc très simple. Les jeans, on les transforme en shorts pour l'été, voire en Bermuda, si on n'a pas envie d'être trop court.
Soizic hoche la tête, elle le fait déjà.
Voilà, elle le fait, c'est très bien. Alors, pas le short avec la fesse qui dépasse. Moi, je préfère un peu plus long, on est quand même beaucoup plus à l'aise. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les fils qui dépassent, c'est très à la mode. Donc, vous n'avez même pas besoin, Julia, de faire d'ourlet. Vous laissez tout en l'état. Pareil, une chemise un peu que vous n'aimez plus trop. Petit top de plage, on le transforme en crop top. Voilà,
Mais je vous dis que je ne sais pas le faire, je vais chez qui ?
Version années 70. Alors, si vous ne savez pas du tout, là j'ai quand même une astuce, c'est que vous voulez transformer un vêtement, notamment pour faire des patchwork. Il y a un lieu très intéressant, c'est sur le web, donc c'est pratique, ça s'appelle Tilly. Donc, c'est un site, TI2LI.fr. Ce sont des couturiers à domicile près de chez vous. Et alors là, c'est magnifique parce que vous avez forcément des robes qui ne vous vont plus. Moi, c'est le cas, par exemple, quand on a un peu grossi. Et bien, du coup, vous allez voir que vous allez pouvoir transformer vos robes, élargir des coutures ou alors ajouter des patchwork avec d'autres tissus que vous aviez, que vous allez incorporer.
Ah, donc élargir. élargir, c'est possible.
Mais c'est possible. Et vous n'avez pas à le faire vous-même si vous êtes mauvaise en couture, comme
Tilly.
Certaines.
Moi, je pensais juste les donner à Julia.
Non, Tilly.fr.
C'est méchant.
Non, c'était gentil.
Ah bon,
celles qui sont trop petites, vous les donnez.
Oh, c'est trop mignon.
Ah, d'accord.
C'est bien fait pour moi.
C'est bien fait pour vous.
Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces conseils. Voilà, merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, nous serons évidemment de retour demain. Julia, on va s'intéresser à quoi demain?
Eh bien, à votre sujet préféré du moment, Mélanie. Hein, on va apprendre à cultiver un potager. Alors que l'envie de revenir à des produits frais, locaux et de saison se fait de plus en plus forte, eh bien demain, on va vous proposer des conseils très pratiques pour commencer à cultiver vos propres fruits et légumes, que vous ayez un balcon ou un jardin. On va vous proposer des tas de solutions.
En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Alors, quel programme?
Le programme d'Europe Midi, bon, on va balayer l'actualité, évidemment. On est à une semaine du premier tour des législatives et on va parler notamment de ce refus d'obtempérer ce week-end à Paris qui s'est soldé par des tirs de la police et par le décès de la passagère. La réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter fait débat, fait polémique. On va en parler, vous pouvez appeler le 3921 et vous passerez à l'antenne, vous réagirez. On sera également avec Charles Sapin qui est journaliste politique au Figaro et avec Louis Dragnel qui est chef du service politique d'Europe 1. A tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.